Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Martine Biron a décidé de se lancer en politique, puis ça a lancé tout le débat sur est-ce que les journalistes peuvent sauter dans l'arène politique. David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, qu'en penses-tu, Martine Biron et d'autres journalistes qui ont décidé de sauter dans l'arène, ont-ils raison de le faire et est-ce que ça nourrit un certain cynisme?
Je pense que oui, ça nourrit un certain cynisme. Ça pose des questions, on t'en a parlé hier sur le site du Journal de Montréal, dans une de tes chroniques. Parce que Martine Biron a quand même eu accès à des informations privilégiées, hein, en étant journaliste. Elle va parler un peu à tous les partis. Elle va essayer d'aller chercher la nouvelle. On sait aussi qu'au mois de juin, elle a fait le bilan du parti, hein, en disant un peu, ben, dans les 4 dernières années et dans la dernière session parlementaire. Les bons coups, les mauvais coups, comment ça s'est passé. Donc, elle fait le bilan en juin, puis un mois et demi à peine après, elle se présente pour la CAQ. Donc, c'est sûr que ça agace et que ça pose des questions. Et probablement qu'au mois de juin, selon ce qu'elle a dit, du moins, elle était déjà au courant qu'elle allait se joindre à la CAQ. Donc, probablement qu'elle aurait dû prendre ses distances déjà à ce moment-là. Là, je pense que ça aurait été la moindre des choses, là.
À quel moment, ça devrait être quoi cette zone tampon-là entre le moment où on quitte le monde journalistique puis le moment où on décide de se lancer en politique? Parce que c'est pas la première. Là, on se rappelle Pierre Duchesne, Christine Saint-Pierre, Bernard Drinville. Il y en a beaucoup de journalistes qui ont décidé de traverser finalement la clôture et rejoindre la force du mal, diront certains.
Ben, je pense que dès que la conversation, pas nécessairement qu'elle est entamée avec le parti politique, mais dès que la décision est prise, oui, je vais me présenter avec votre parti, je pense que le journaliste en question ou la journaliste en question devrait prendre ses distances avec son employeur.
C'est drôlement dit à ton employeur et en passant, je pense démissionner parce que je vais aller en politique, mais là, donne-moi donc une petite zone tampon là, parce que je suis pas prête à l'annoncer et je suis pas prête à lâcher ma job.
Ben, c'est ça, même, puis plus j'y pense, plus j'ai l'impression que la personne devrait quitter son emploi à ce moment-là. Ça reste un saut dans le vide aller en politique. On comprend que les personnes veulent quand même garder leur emploi le plus longtemps possible pour avoir un revenu. Ça, je le conçois tout à fait. Mais en même temps, j'imagine que c'est le prix à payer. Et je pense que ça nous rappelle aussi que les journalistes ne sont pas nécessairement n'incarnent pas l'objectivité incarnée, si on veut. Ils ont tous leur biais, ce qui est correct aussi. Je pense qu'ils sont capables de faire un travail honorable malgré leur biais. Je pense que ça rappelle aussi que nos journalistes, c'est intéressant aussi quand ils ont différents biais, justement, puis que ça vient, tous ces biais-là viennent un peu se contredire en quelque sorte, puis qu'on puisse lire des journalistes de différents horizons, puis c'est ça qui nous nourrit, je pense, en tant que citoyens, là.
Oui, ben évidemment, ce sont des citoyens qui aussi ont droit de vote et qui doivent avoir des idées politiques, bien qu'on leur demande dans le cadre de leur travail d'être neutre et de faire leur travail avec impartialité. Mais moi, je me pose toujours la question, devrait-on avoir des règles pour les journalistes qui souhaitent rejoindre la politique? Puis là, il y a toutes sortes de journalistes. Il y a ceux qui font les faits divers, puis il y a ceux qui analysent la politique au quotidien puis qui recueillent des confidences des différents caucus. Est-ce que les règles devraient changer entre l'un et les autres?
Ben, c'est sûr que si on est proche des milieux journalistiques, surtout dans le cas de Martine Biron, qui faisait dans l'analyse, qui allait chercher des nouvelles sur le terrain quand même, ça m'agace un peu plus que, par exemple, un Bernard Drinville qui, ben, dans les dernières années, était connu pour ses prises de position. T'sais, on n'est pas tous tombés en bas de notre chaise quand on a appris qu'il se joignait avec la CAQ. On le savait déjà qu'il y avait certaines accointances idéologiques avec le parti. Donc moi, ça me choquait un peu moins que justement de Martine Biron, que là, elle, j'ai l'impression que son impartialité était un peu plus importante dans le cadre de son travail.
C'est intéressant de voir, on n'a pas encore vu le point de presse de Martine Biron, puis c'est sûr que des questions en ce sens vont lui être posées. Comment va-t-elle répondre et quelle est la trame finalement de la prise de décision? Ça va être déterminant pour la lecture que l'on va faire de cette candidature. Parlons de notre deuxième sujet, David, et on va poursuivre le débat qu'on a commencé hier sur le cégep français. Et j'ai cru comprendre qu'en bonne enseignante, a fait des devoirs hier.
Ben oui, tout. Yasmine, tu m'as pris au dépourvu hier en me lançant sur ce sujet.
Ça m'arrive, hein?
Ben oui, ben j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, non, ben là, je veux me reprendre le lendemain, je veux me reprendre aujourd'hui. Donc oui, je pense que le cégep, on parlait hier de la loi 101 au cégep, parce qu'on devrait l'appliquer. Je pense que un des arguments importants, c'est que c'est l'effet anglicisant des cégeps. Hein. Quand on étudie au cégep en anglais, on augmente nos chances d'étudier en anglais à McGill ou Concordia. Hein. On s'aligne pour 85% de chances d'étudier en anglais à McGill ou Concordia. Et on multiplie par 12 les chances de travailler en anglais. Donc vraiment, il y a un effet anglicisant d'aller étudier au cégep en anglais. On sait que c'est un moment charnière dans la vie. On entre dans la vie adulte à ce moment-là et ça dirige vraiment le reste de notre vie, j'ai l'impression.
Alors, le cégep serait anglicisant et ça mènerait à l'université anglicisante. C'est ce que je comprends?
Oui, tout à fait. Les données de Statistique Canada sont claires à ce propos-là. Et donc oui.
Est-ce qu'on change de langue maternelle?
Non, bien sûr que non, mais la langue n'est pas juste un outil de communication, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un écosystème. Puis au Québec, on souhaite pas. L'objectif au Québec, malgré ce qu'on entend, c'est pas juste que les gens soient capables de parler français, mais c'est qu'ils parlent français dans la vie de tous les jours, au travail. C'est ça l'essence de la loi 101, c'est que l'écosystème linguistique se fasse en français. Peu importe si on est capable de parler français, on veut que les gens parlent dans le concret en français.
Et qu'est-ce que tu réponds à cette statistique-là qui dit que 6% des élèves qui ont le français comme langue maternelle uniquement, 6% vont au cégep en anglais et parallèlement 11% des élèves qui ont l'anglais comme langue maternelle vont au cégep en français?
Oui, bien ça, évidemment, là, si on prend des statistiques qui sont nationales, alors qu'on sait bien que les cégeps anglophones sont principalement à Montréal, parce que quand on regarde les statistiques à Montréal, c'est beaucoup plus inquiétant, puis on regarde les cégeps anglophones, le 2/3 des étudiants dans les cégeps anglophones sont francophones et allophones. Donc, c'est même plus des cégeps anglophones, en fait. La majorité, c'est des étudiants allophones, si je peux dire. Donc,
des étudiants allophones qui ont fait toute leur primaire et le secondaire en français.
Oui,
comme les étudiants francophones.
Oui, tout à fait. Puis quand ils arrivent à cette époque charnière du cégep, là, vraiment, entre l'adolescence et la vie adulte, si on veut, ben là, ils décident d'aller, de faire le saut dans la... Juste un instant, j'entends une autre personne sur la ligne sur Skype actuellement. Oui, ok, c'est bien. Donc, en fait, les cégeps anglophones deviennent allophones et c'est pour ça que ça anglicise vraiment toute une partie de la population qui était francophone historiquement.
Et comment on a déterminé que ça s'est anglicisé, ces étudiants-là?
Est-ce que je vous ai perdu?
Non, je t'entends, David. Est-ce que tu m'entends?
Oui, maintenant, je t'entends.
Oui, alors, comment on détermine que ça s'est anglicisé? Parce qu'on est parti dans une université anglophone?
Oui, ben on fait le saut, on se dit, ben là, ma vie d'étudiant, je vais la faire en tant qu'anglophone. Ma vie de travailleur, je vais la faire dans le milieu anglophone. Donc, je vais être capable de parler français, mais...
Mais David, juste pour te dire, j'ai fait mes études universitaires en anglais. Je les ai fait à Concordia. Je ne me suis jamais considérée comme une personne qui s'est anglicisée. Et selon les statistiques que tu nous présentes aujourd'hui, ben le choix de faire mon université en anglais, ça serait mon choix de choisir une autre culture, une culture anglophone et de m'angliciser. Je suis sûre qu'il y a pas mal d'étudiants universitaires, Paul Saint-Pierre Plamondon pour ne pas le nommer, qui ne partagent pas cet avis.
Yasmine, je vais te lancer des fleurs, tu vas être contente. Je pense pas que tu représentes la norme de l'étudiant à McGill ou Concordia.
L'étudiant francophone, oui. L'étudiant francophone qui a fait son primaire et secondaire, je te garantis que oui. Moi, je les ai vus, je les ai côtoyés, j'en ai comme amis. Des personnes qui ont fait leurs études en français, qui ont décidé d'aller à McGill ou à Concordia pour toutes sortes de raisons et qui se sont pas anglicisés, qui ne se sont pas considérés comme des anglophones ou ne plus être des francophones. Bien au contraire, c'était d'aller chercher des études dans le programme de notre choix qui est offert dans une université anglophone et rien de plus, rien de moins.
Il y a ça, on discute depuis le début de l'été sur plein de sujets. Souvent, tu vas t'identifier à la culture québécoise, au peuple québécois. Je serais curieux de savoir si je vais à Concordia et je dis, est-ce que vous êtes québécois? Rares sont ceux qui me diraient oui. J'en suis convaincu, on me dirait, je suis Montréalais, je suis Canadien. Rares seraient ceux qui me diraient qu'ils sont québécois. Vraiment, culturellement, ils vont devenir...
Mais la loi 101 va pas régler ça. La loi 101 au cégep ne va pas régler ça. La loi 101 à l'université ne va pas régler la réponse à la question que tu proposes. Pourquoi on n'est pas dans promouvoir le cégep en français, promouvoir nos institutions d'enseignement postsecondaire en français, plutôt que de enlever des droits, enlever des possibilités, enlever des choix à des étudiants qui peuvent prendre des décisions rendues à leur âge, sans nécessairement s'avaler tout rond, avaler toute leur primaire puis le secondaire. Puis une autre question, c'est que si 2 ans de cégep fait en sorte que tu deviennes anglophone puis que t'es plus francophone, il y a des sérieuses questions à se poser sur la qualité du français que l'on enseigne au primaire et au secondaire. Ça se peut pas, je peux pas croire.
Mais tout ça, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Et souvent on entend ça, on doit davantage valoriser la culture québécoise. C'est ce que beaucoup de cégeps anglophones ont essayé de dire. Ben oui, attendez pas qu'il y ait une loi là-dessus, faites-le tout de suite. Ça, je vais le dire, je vais le répéter. Puis d'ailleurs, on enlève la loi 101 au cégep, si on avait à l'appliquer, ça enlèverait aucun droit. Hein. C'est pas un droit d'étudier au cégep.
Oui, actuellement, un élève qui est francophone, qui a son DES d'une institution secondaire francophone, a le droit d'appliquer dans un cégep en anglais, a le droit d'aller faire des études universitaires en anglais. Alors, si on applique la loi 101, on lui retire cette possibilité-là, donc on lui retire un droit.
Oui, mais c'est pas un droit qui est assuré par les chartes des droits et libertés.
Ah ben là, si on parle de droits et libertés, des chartes de droits et libertés, on part sur un autre sujet parce que... puis je pense pas que t'aimerais ce sujet-là, David, si on retourne sur la laïcité.
Ça serait un autre dossier. Mais ce que je voulais dire par là, c'est si vous voulez vous angliciser, ben allez dans un cégep privé. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. C'est juste que l'État, à mon sens, dans un État où la langue officielle est le français, je vois pas pourquoi on choisirait d'angliciser la population. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. Déjà qu'actuellement, 49% des diplômes préuniversitaires à Montréal se font en anglais. Bientôt, on va passer la barre du 50%, alors que 17% des Montréalais sont anglophones. Donc, il y a vraiment une surreprésentation des diplômés préuniversitaires à Montréal anglophones. Et oui, ça agace, puis on voit la tendance à la hausse. Imaginons où est-ce que ça monte à 60, à 70%, parce qu'on voit une tendance à quel moment ça va s'arrêter.
David, les chiffres sont têtus. Malheureusement, on ne voit pas de tendance. C'était 5,6% en 2015-2016. La proportion des élèves qui ont le français comme langue maternelle qui vont au cégep en anglais, c'est 6% en 2021. C'est 4,5% de tous les cégepiens du Québec que les francophones qui vont au cégep en anglais, c'est 18% la proportion des cégepiens qui sont inscrits dans une institution anglophone, alors qu'en 2015, c'était 17%. Il n'y en a pas d'augmentation. On a beau regarder les chiffres, les analyser, on peut pas leur faire dire ce qu'ils disent pas.
Mais oui, ça regarde les chiffres de Statistique Canada sont clairs. On peut les sortir, mais là, on fait une guerre de chiffres actuellement. Là. J'imagine nos auditeurs un peu perdus. Mais oui, à mon sens, c'est ça. Puis ce qu'on ne parle pas assez aussi, c'est l'élitisme des cégeps anglais, étant donné qu'ils reçoivent davantage de demandes. Et ça, c'est un dossier important. Par exemple, Dawson va accepter très, très peu d'étudiants en difficulté. Et les cégeps francophones... beaucoup plus. Donc oui, ils font pas leur juste part dans justement cette sélection là d'étudiants en difficulté qui sont de plus en plus nombreux dans nos classes. Puis ça, c'est vraiment fâchant parce que ça ajoute du travail pour nos enseignants au cégep francophone, pardon.
David Santarossa, toujours un plaisir de débattre avec toi. On se retrouve lundi.
Certainement, on se parle lundi.